Vous écoutez France Culture.
Réplique, la médecine face à l'euthanasie, avec Anne-Laure Bock et Bernard Lebeau. Anne-Laure Bock est neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière. Bernard Lebeau, cancérologue et pneumologue, est professeur de médecine à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Ils ont tous deux prêté le serment d'Hippocrate. Mais du fait même de leur spécialité, ils sont ou ils ont été exposés, en cas de diagnostic fatal ou de déchéance annoncée, à la demande d'une mort douce et digne. Au lendemain de l'affaire Vincent Imbert, ce polyhandicapé qui a rendu public son désir de mourir et dont, après que sa mère eut tenté de mettre illégalement fin à ses jours, le docteur Frédéric Chaussoy a provoqué le décès, la représentation nationale a voté une loi relative aux droits des malades en fin de vie. Effective depuis le 22 avril 2005, cette loi, dite loi Leonetti, interdit strictement l'obstination déraisonnable, autre nom de l'acharnement thérapeutique. Elle offre en outre aux patients la possibilité de limiter ou d'arrêter un traitement au risque de sa vie et d'écrire des directives anticipées dans le cas où il lui deviendrait impossible d'exprimer sa volonté. Mais cette loi ne dépénalise ni l'euthanasie, ni le suicide assisté. Au vu des cas qui ne cessent de se présenter et qui accompagnent les progrès même de la médecine, cette loi vous paraît-elle suffisante, Bernard Lebeau ?
Non, hélas. Je dirais que les médecins étaient relativement tranquilles tant qu'il n'y avait pas de loi. Il y a d'abord eu la loi Kouchner en 2002, qui était très large, mais très imprécise également, qui défendait les droits des malades. Puis la loi Leonetti, beaucoup plus précise, mais qui, je le rappelle, a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, ce qui fait que pour moi, elle est malheureusement un plus petit commun dénominateur afin de mettre tout le monde d'accord. C'est une grande avancée, et vous l'avez bien défini, il y a trois progrès immenses, mais pour moi, il y a encore cinq catégories d'insuffisances qui doivent être comblées. Si mon livre a été préfacé par le professeur Alain Grimfeld, c'est que celui-ci est pédiatre. Donc la première catégorie de patients qui ne sont pas prévus dans la loi Leonetti, ce sont notamment les cas de néonatalogie, qui sont dramatiques. Preuve en est que la Belgique, qui a dépénalisé l'euthanasie depuis 2002, est en train, et d'ailleurs a voté récemment, l'extension de la loi belge aux enfants. Il y a aussi les très grands vieillards.
Enfin, en même temps, on a été très surpris, parce que c'était comme si les enfants pouvaient eux-mêmes exprimer leur volonté de mourir en cas de maladie incurable. Alors que là, vous me parlez de néonatalité, ce qui est un peu différent.
Ben, on pourrait parler de l'IVG, c'est encore avant, et l'enfant ne s'exprime pas. Et on néanmoins le tue, et ça ne pose plus de problème.
Oui, mais est-ce que la loi belge étendue s'appliquera à la néonatalité, ou elle s'appliquera à tous les enfants ?
Elle s'appliquera à tous les enfants. Mais, bien entendu, ce n'est qu'à partir d'un certain âge et encore, mais même pour un adulte, dire « je veux mourir », on sait très bien que le lendemain, certains malades vont changer d'avis. Il faut donc qu'il y ait un contrôle médical. Le patient, à l'inverse de ce que demandent certaines associations, n'a pas tout pouvoir sur la décision médicale. Nous avons quand même un cerveau, nous essayons de nous en servir. Donc il faut contrôler l'euthanasie. Mais je pense qu'il faut la permettre. Je ne suis ni pour ni contre. Parce que, en fait, tout le monde, si on prend, mais on en reparlera sans doute, une définition large de l'euthanasie, c'est-à-dire sa définition initiale, celle qu'avait donnée Bacon, qui était médecin et philosophe au XVIIe siècle, c'est-à-dire le souhait d'avoir une mort tranquille. Et dans ce cadre, vous pouvez mettre tout le monde d'accord. Mon but est de réconcilier, ni pour ni contre,
oui, mais alors,
travailler ensemble.
D'accord. L'euthanasie, alors je rappelle en effet la définition de Francis Bacon dans du progrès et de la promotion des savoirs, c'est-à-dire un livre publié en anglais en 1605. Quelques années plus tard, Descartes dira que la conservation de la santé a été le but principal de ses études. Et dans le même sens, Bacon, si vous voulez, définit le programme moderne, le programme de la modernité, par le soulagement du sort des hommes. Et il inclut l'euthanasie, qui pour la première fois d'ailleurs est employée dans ce sens, puisqu'il dit « J'estime que c'est la tâche du médecin non seulement de faire retrouver la santé, mais encore d'atténuer la souffrance et les douleurs, et ce non seulement quand un tel adoucissement est propice à la guérison, mais aussi quand il peut aider à trépasser facilement et paisiblement. » Il ajoute un peu plus loin, « Les médecins devraient à la fois perfectionner leur art et apporter du secours pour faciliter et adoucir l'agonie et les souffrances de la mort. » Mais en quoi, encore une fois, très précisément, Bernard Lebeau, la loi Leonetti est-elle insuffisante? Parce que, d'une certaine manière, elle va dans ce sens, avec aussi le développement des soins palliatifs. Il s'agit quand même d'adoucir la mort. Et vous dites non. Alors, vous avez parlé de la néonatalité, mais pourquoi non?
Parce que les soins palliatifs ne peuvent solutionner tous les cas. Il y a, d'une part, des souffrances qui sont incontrôlables. J'ai vu des patients se cogner la tête contre le mur, alors qu'on faisait un maximum pour eux. J'ai vu des patients qui étaient atteints d'un cancer du poumon avec des métastases osseuses diffuses, qui étaient immobiles dans leur lit, arriver à se lever la nuit dans l'hôpital pour se pendre. C'est inadmissible. Ces patients, nous les avons mal pris en cause. Les médecins sont responsables de ces situations. Et nous avons besoin de sédation terminale. Alors, la loi Leonetti a été amendée en 2010 et a introduit cette notion de sédation terminale. Mais qu'est-ce que c'est que la sédation terminale, si ce n'est une euthanasie active? Ne soyons pas hypocrites.
Anne Lorbock.
Je comprends vos arguments, mais je ne partage pas vos conclusions. J'ai une grande admiration pour la loi Leonetti qui, je pense, a permis un immense progrès. D'abord, c'est une loi qui n'est quand même pas si ancienne, elle a 9 ans. Et elle a déjà enclenché un mouvement très remarquable d'amélioration de la mort, sans prétendre aller jusqu'à la bonne mort. Parce que la bonne mort, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Que pourrait être la bonne mort? On entend dire, en France, aujourd'hui, on meurt mal. Comme si, ailleurs ou à une autre époque, on mourait bien. La vérité, c'est qu'on meurt toujours mal, d'abord parce que personne n'est consentant dans ce drame. Et personne n'accepte d'ailleurs la mort de ceux qu'il aime. Que pourrait être la mort, la bonne mort? Est-ce que c'est la mort subite, accidentelle, en pleine possession de ses moyens, physiques et intellectuels? C'est épouvantable, c'est comme privé de sens, absolument injuste. Ou au contraire, la mort lente, au terme d'un long déclin. Mais alors là, c'est le déclin qui est vu comme trop douloureux. En fait, soit c'est le détachement du monde qui est trop douloureux, soit on n'est pas assez détaché du monde pour mourir. Donc en fait, la bonne mort, je dirais que c'est presque un oxymore. Ou, pour être un peu moins extrême, c'est un idéal régulateur. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas vocation à exister réellement, mais qui peut nous guider dans un sens, qui peut guider nos efforts. Et effectivement, la médecine a son rôle à jouer dans cet effort, et elle n'est d'ailleurs pas la seule. C'est un peu dommage qu'on oublie toujours qu'il n'y a pas que la médecine. Je pense réellement que la loi Leonetti a permis de prendre en compte ces efforts, de les guider, mais aussi de leur signifier qu'ils n'ont pas vocation à faire disparaître le problème et qu'on ne peut pas entièrement le résoudre. Et c'est en cela qu'il me semble que c'est une loi pleine de sagesse, qui est une loi qui ne va pas jusqu'au bout d'un bout qui est en fait assez terrifiant pour moi. Peut-être on peut la compléter, mais c'est plutôt une question d'esprit de la loi. Et je pense que les améliorations à la loi sont un peu à la marge. Finalement, on rentre dans des discussions techniques, comme la sédation terminale, qui est certainement intéressante, mais qui est quelque chose de technique plus que de juridique.
Oui, mais quand vous dites on peut la compléter, vous impliquez aussi qu'il y a des limites que cette
Exactement.
Loi ne doit pas dépasser, et donc vous ne voulez pas qu'elle aille, comme en d'autres pays, la Suisse ou la Belgique, jusqu'au suicide assisté et à l'euthanasie active.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre. Quelle est la différence d'ailleurs entre les deux?
C'est très différent.
Alors dites-moi, c'est quoi?
Le suicide assisté, c'est le patient conscient qui va prendre les médicaments ou s'injecter les médicaments pour se suicider.
Oui, mais avec l'aide éventuellement d'un médecin. Avec en Suisse ou en Belgique, c'est suicide assisté ou l'euthanasie?
Pas forcément d'un médecin, d'ailleurs. Ça peut être une infirmière.
Non, sans médecin et normalement oui. Hors d'une structure de soins, oui. Alors, qui a son importance symbolique.
Et ensuite, en Belgique, donc, vous appelez ça plutôt l'euthanasie active.
L'euthanasie active avec une injection qui se fait dans une structure de soins.
Ah, d'accord.
Ça, et la localisation a son importance. Et dans le suicide assisté, c'est plutôt d'ailleurs la délivrance d'une ordonnance qui permet de se procurer un poison que la personne pourra s'administrer elle-même, hors de la présence d'un médecin ou d'un soignant, et hors d'une structure de soins.
Alors, Anne Lorbock, justement, c'est quand même... cet argument, vous l'avez développé dans des interventions, dans un livre, Médecine technique, médecine tragique, dans un article du Débat, dont j'ai déjà parlé ici, qui m'a beaucoup impressionné, quand la médecine engendre des handicapés. Mais ce qui est extraordinaire dans cet article, c'est que d'un côté, vous dites jamais il ne faut demander à un médecin l'euthanasie, parce que c'est contraire à sa vocation, mais vous donnez malgré tout des arguments pour l'euthanasie. C'est ce qui est fascinant dans cet article, parce que vous dites en effet, la médecine engendre des handicaps. Et il y en a un qui est massif, vous dites, la vieillesse n'est plus l'exception, grâce à la médecine, elle est devenue la norme. Sauf que ce sont des vieillards toujours plus dépendants, donc handicapés. Et vous dites, la médecine répare tout. Elle répare de mieux en mieux, même si effectivement les organes s'épuisent. Mais il y a une chose qu'elle ne répare pas, et semble-t-il, vous êtes neurochirurgien, vous êtes bien placé pour le dire, qu'elle n'est pas prête à réparer, c'est le cerveau. D'où cet horizon que vous nous annoncez, à nous autres, enfin, vivants, adultes, etc., nous dirigeants. Vous dites, vous n'êtes pas des êtres pour la mort, mais en fait, selon Heidegger, mais vous êtes des êtres pour la démence sénile. Voilà, vous allez vieillir, et la démence sénile est votre avenir. C'est votre avenir, et on est fondé à se dire, de cet avenir, je ne veux pas, et moi, je voudrais vous opposer, et enfin, ou vous donner à l'un et à l'autre à méditer ce cas, Hugo Claus, l'écrivain belge, j'étais tout à fait fasciné, parce qu'on est tous obsédés par les différentes variantes de la démence sénile. On appelle ça d'un nom générique maladie d'Alzheimer, mais il y en a des tas, semble-t-il. Et on lui apprend qu'il a ça, parce qu'il y a eu des petits symptômes, etc. Mais il est lucide. Alors on lui dit, voilà ce vers quoi tu vas. Ce vers quoi tu vas, c'est-à-dire une vie absurde, ou une vie où tu ne seras plus toi-même, où tu seras absolument méconnaissable. Il décide que de cette vie, il ne veut pas. Il habite la Belgique, il va dans une structure, et on l'aide à mourir. Il ne se suicide pas parce qu'on ne sait pas comment faire, il ne vomit pas, je ne sais pas quelle, soit une injection létale, soit une potion qu'il boit, etc. Il est accompagné de sa femme, paraît qu'ils ont sablé le champagne, enfin, et il meurt. Et je me dis, mais c'est pas une bonne mort. C'est une mort miséricordieuse. Et pourquoi les médecins nous refuseraient-ils cette miséricorde au nom, justement, de l'amour qu'ils portent à l'humanité, Anne Lorbock?
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est que, quand je dis que nous évoluons tous vers la démence sénile, avec un peu de chance, il y a un côté un peu provocant. Il y a une volonté de provocation. D'abord, il y a une partie d'obstination déraisonnable dans le fait d'amener chacun d'entre nous vers la démence sénile. Car l'obstination déraisonnable, ce n'est pas uniquement des techniques lourdes, mais il y a aussi le maintien à bout de bras de personnes qui n'en peuvent plus de vivre. C'est une première chose. Deuxième chose, dont on parlera certainement, il ne faut pas dans le désir d'échapper à un malheur, provoquer un malheur encore plus grand. Et un malheur encore plus grand qui touchera tout le monde. Comme vous le savez, dans les pays qui ont dépénalisé ou légalisé, l'euthanasie active, bon, la Hollande et la Belgique, touche peu de gens, 1 à 2% des décès prévus.
Soit plusieurs milliers de personnes chaque année.
Ce qui fait un nombre assez faible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une loi touchera tout le monde. Les 99% qui ne désirent pas l'euthanasie seront touchés, car la loi n'a pas seulement une portée pratique, mais elle a une portée symbolique. Une portée hautement symbolique. Or, qu'est-ce que dit une loi qui dépénalise l'euthanasie ou qui la légalise? C'est, comme l'exprime très clairement le nom de la principale, voire la seule association qui milite pour ce droit, que la mort hors euthanasie est une mort indigne. En fait, quand vous êtes vieux, malade gravement, impotent, handicapé, dément, vous êtes indigne. Et c'est quelque chose qui est dit très fortement par cette loi et qui est très effrayant, car même si vous êtes vieux, malade, impotent et dément, en fait, vous n'avez pas envie qu'on vous assène avec toute la force de la loi que vous êtes indigne. Le cas d'Hugo Claus est particulièrement effrayant, car il a recours à l'euthanasie à un stade très précoce de la maladie d'Alzheimer. Et l'immense majorité des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ne veulent absolument pas entendre qu'elles sont indignes. L'immense majorité de ces gens ont envie de vivre. Or, quand on a fait l'apologie, car c'est bien ce qu'ont fait les médias français en particulier de l'attitude d'Hugo Claus, quand on dit que c'est l'attitude qui est digne, courageuse, noble, les autres entendent forcément, et ils sont très sensibles à cela, que leur attitude à eux, de se cramponner à la vie comme un parasite, en fait, c'est terrible, est indigne, lâche, minable, ou que sais-je. Et ça, c'est un argument très effrayant. Et on en rediscutera peut-être. Nous, médecins, sommes beaucoup plus confrontés à l'angoisse des personnes qui ont peur d'être... qu'on leur signifie trop clairement que leur place n'est plus sur Terre, en fait, pour leur bien sûr, mais quand même. Donc à ces pressions, qui sont des pressions essentiellement morales, vous l'aurez comprise, et qui viennent peu du corps médical, mais quand même un petit peu, notamment pour des raisons économiques, mais qui viennent profondément du corps social, qui est quand même obsédé par la performance, on le sait, pour ne pas être sensible à ces signaux catastrophiques pour l'immense majorité des malades.
Bernard Lebeau.
Je suis ni pour ni contre, donc j'adhère à bien des propos qui viennent d'être présentés par Anne-Laure Bock. Néanmoins, il faut relever qu'en Belgique, la loi existe depuis maintenant 12 ans et que le nombre d'euthanasies actives n'augmente pratiquement pas. Donc on ne peut pas dire que la loi ait créé un mouvement pour développer l'euthanasie. Avec un bémol, c'est qu'il est possible que les médecins belges ne déclarent plus maintenant automatiquement tous les cas parce qu'il y a des formalités administratives qui sont lourdes. Donc je serai prudent. Mais je serai encore plus prudent en disant que si justement dépénaliser, c'est encore culpabiliser. Je pense qu'il faut légaliser, mais légaliser avec un contrôle très strict des situations a posteriori. Il y a des urgences d'aide à la fin de vie et là, la loi Leonetti est parfaite. Mais tout à l'heure, nous avons simplement parlé des problèmes pédiatriques, avant tout de néonatologie. On vient de parler de l'Alzheimer. Pour moi, c'est un des manques majeurs de la loi Leonetti, parce que certains qui sont contre disent « Mais on ne peut pas légaliser pour des choses exceptionnelles. » Alzheimer, ce sont des dizaines de milliers de personnes chaque année. Et j'ai vu mourir il y a un an un proche atteint de maladie d'Alzheimer. La loi Leonetti a été parfaitement appliquée et sa fille médecin n'a pas voulu modifier l'attitude des médecins et de soignants responsables. Cela a été catastrophique. Parce que cette maladie a évolué sur 3 ans. Au bout de 2 ans, elle a été hospitalisée pendant 3 ans. Au bout de 2 ans, elle est passée en secteur fermé. Et il faut vous garantir, pour la voir tous les jours, que le secteur fermé, c'est déjà un peu particulier. Et elle a commencé à faire des fausses routes. Donc, il a été décidé d'appliquer la loi Leonetti, de ne plus l'alimenter, de ne plus l'hydrater. Mais comme c'était une personne en très bonne santé par ailleurs, son agonie a duré 27 jours. Et nous n'avons obtenu l'administration de morphinique qu'au cours des 3 derniers jours. Parce que nous avons fait remarquer aux soignants que, alors qu'elle était totalement, la pauvre, délabrée au plan intellectuel, elle ne nous parlait plus, mais elle avait un grand sourire à chaque fois qu'on venait l'embrasser. Les derniers jours, les 27 derniers jours, quand nous entrions, elle pleurait et nous n'avons fait que la voir pleurer. Et ça, ce n'est pas admissible. Et ça, la loi Leonetti ne le solutionne pas. Et ce sont des problèmes qui ne sont pas négligeables. Il y a aussi des patients conscients. On a vu, il y avait un très très beau film autrefois qui s'appelait Maradentro, qui posait le problème d'un tétraplégique. Si quelqu'un devient tétraplégique, c'est bien pire encore que
tétraplégique.
Il a le droit de décider de vivre ou de mourir. Il ne peut plus se suicider. Et dans ce film qui se déroule en Espagne, bien entendu, il ne faut pas parler d'euthanasie. Eh bien, c'est une histoire vraie. Hein. Ce sont ses amis, sa famille, qui à 17, je crois, ont réuni les moyens pour lui fournir le produit et faire qu'il a pu prendre ce produit et mourir sans qu'ensuite... ils sont passés devant les tribunaux, mais ils ont été absous.
Justement, je voudrais vous soumettre un autre cas, Anne-Laure Bock. Je suis forcément sensible à ce que vous venez de dire, les répercussions sur ceux qui veulent continuer à vivre, de l'idée de la mort qu'incarnent ceux qui ont décidé de l'idée de la mort et de la vie, qu'incarnent ceux qui ont décidé d'en finir. Mais j'ai sous les yeux le livre, qui est un témoignage très impressionnant, d'Emmanuel Bernheim, « Tout s'est bien passé ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Son père, Antoine Bernheim, a fait un AVC, un accident vasculo-cérébral. Il s'est réveillé, disons, très diminué. Il était âgé, 88 ans, infarctus cérébral, anévrisme des carotides internes. Vous comprenez ça beaucoup mieux que moi, je pense. Hémiplégique, enfin. Et il dit très vite qu'il veut en finir. Et il demande à sa fille de l'aider parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Et c'est le parcours du combattant. Il raconte l'incroyable parcours du combattant qu'ils ont dû faire, lui et ses deux filles, pour que son désir puisse être exaucé. Et il n'en démord pas. Il se montre tout au long de pendant près d'un an, absolument inébranlable. Mais Emmanuel Bernheim raconte à la clinique un dialogue que je trouve tout à fait intéressant et instructif avec le docteur H, qui s'occupe de lui. C'est une femme jeune, potelée, souriante. Alors elle lui dit, Emmanuel Bernheim, mon père a dit qu'il souhaitait en finir. Elle sait, elle décide d'augmenter les antidépresseurs, en plus de l'atimil, du rivotril au coucher. Bon, très bien. Et puis, pour finir la conversation, elle a cette phrase que moi, je trouve terrible. « Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. En général, ils finissent tous par s'accrocher à la vie. » Oui, c'est vrai. Mais peut-être le sait-il, justement. Mais il ne veut pas être réduit à cela, c'est-à-dire à l'horreur du conatus, à l'hébétude du besoin, à toute la bêtise, comme disait Nietzsche quand il était schopenhauerien, d'un épouvantable désir, c'est-à-dire la vie pour la vie. Je ne sais pas s'il faut parler de dignité, mais on ne vit pas simplement dans le simple vouloir vivre. Il y a autre chose dans la vie. Il y a un moment où on n'est plus que cela. Et donc, Hugo Claus a pris les devants. Parce qu'à un moment, sans doute, se serait-il accroché, cramponné à la vie. Mais il ne l'a pas voulu. Et au nom de quoi pourrions-nous lui refuser cette aspiration, pour parler comme Ricoeur, à être vivant, en un autre sens, jusqu'à la mort?
Mais ce n'est pas ce que m'a appris mon expérience de médecin auprès des grands malades. Ce conatus assez, presque biologique, assez répugnant, ce n'est pas du tout ce que j'ai appris à leur contact. J'ai appris qu'il y avait une grande souffrance, mais au-delà de la souffrance physique, il y a la souffrance d'être mis à part. Et ce qui est terrible pour celui qui va mourir, et qui n'est pas encore mort et qui voudrait encore vivre, c'est que justement, il voudrait encore vivre, pas uniquement comme un être biologique. Et même des gens très diminués, très impotents, très malades, très souffrants, peuvent encore être dans une relation d'échange avec leur entourage, leurs proches, les soignants. Et ce qui est terrible, c'est qu'on leur signifie, quand ils croient comprendre, ou qu'ils comprennent, ou qu'ils croient comprendre, qu'ils ne sont plus dans cette relation d'échange, et que finalement, ils n'ont plus rien à apporter à personne. Et ce que signifie l'euthanasie, ou la possibilité de l'euthanasie, c'est effectivement, ils n'ont pas à lutter parce qu'ils sont devenus entièrement débiteurs, en fait. Ils n'apportent plus rien à personne, ils sont hors jeu, hors combat, il n'y a même plus de raison de lutter. Et le mieux pour eux, ce serait effectivement qu'ils ne soient plus là. Vous savez, on n'a jamais entièrement raison tout seul dans son coin. Donc, croire que les gens sont certains d'être simplement livrés à un conatus, c'est simplement qu'ils le lisent dans les yeux des autres, ou ils croient le lire. Et donc, il faut s'inquiéter du fait qu'en les assurant qu'effectivement, ils n'ont rien de mieux à faire, ils vont comprendre cet désir d'en finir, ou ils vont interpréter ce désir d'en finir des autres pour eux-mêmes. La pression psychologique d'une telle situation est lourde, très lourde. Personnellement, je n'ai jamais été confrontée à une demande d'euthanasie active prolongée. Ça peut paraître bizarre. Je n'ai pas la même pratique que M. Lebeau. Je ne m'occupe pas de cancéreux douloureux parce que les maladies neurologiques donnent une souffrance psychique, mais pas une souffrance physique. Il n'y a pas des métastases très douloureuses. Mais par contre, j'ai une bonne habitude de la dégradation intellectuelle et aussi des troubles de la conscience. Eh bien, dans mon expérience, les personnes qui ont ces troubles ne demandent pas l'euthanasie. Elles ont surtout peur qu'on l'envisage et elles ont envie d'entendre de leurs proches, des autres, que malgré leur dégradation, elles ont encore envie d'être là, qu'on a encore envie qu'elles soient là.
Mais quand
ça peut paraître, ça peut vous paraître étonnant,
non.
Mais sur le long cours, sur une expérience prolongée, je ne l'ai jamais entendu.
Mais
encore une fois, dans la douleur, c'est peut-être autre chose.
Non, mais je veux rester dans votre domaine parce
Bernard
que
Lebeau.
Pour moi, la douleur, je dirais dans 99% des cas, maintenant, ça se soulage. Mais l'Alzheimer m'a marqué parce que je viens de le vivre personnellement. Vous dites s'exprimer, vous dites se faire entendre. Mais ces gens-là ne peuvent plus s'exprimer, ne peuvent plus se faire entendre. S'ils ont écrit, et c'est très important, et on essaie de le développer actuellement, des directives anticipées, et la loi Leonetti inclut les directives anticipées, l'ennui, c'est que c'est un peu soumis à la décision du médecin. C'est-à-dire, le médecin peut dire, oh là là, lui, il est trop vieux, lui, il est trop vulnérable, donc il a fait des directives anticipées, mais c'était il y a 2 ans et demi, alors c'est vrai, on dit qu'il faut 3 ans.
Ces directives anticipées ne peuvent pas déboucher non plus sur l'euthanasie, parce que...
Actuellement, il
non,
faut appliquer
même
la loi
Leonetti. La loi Leonetti bloque ça aussi, quand même. Non.
Elle ne bloque pas, elle a introduit la notion de directive anticipée, mais sous contrôle du médecin.
D'accord. Alors, et que fait le médecin ?
Une sédation terminale,
ah,
la loi
oui,
du double effet, les arrêts de traitement. Par exemple, vous savez, quand, actuellement, les réanimateurs sont très intéressés par ces problèmes, ça n'a rien à voir avec le cancer, mais... Là encore, j'ai vécu une grande hypocrisie pour un patient qui avait un emphysème extrêmement sévère. Il était intubé, ventilé depuis 2 mois. Il avait une 50aine d'années, donc c'est quand même relativement jeune. Et il a dit à sa femme, j'en ai assez de vivre. Donc sa femme, enfin il lui a écrit, pardon. Sa femme est allée voir le réanimateur qui a dit, écoutez, maintenant la loi Leonetti nous permet de le débrancher. Et on l'a débranché, mais si vous saviez la façon dont on l'a débranché, c'est honteux. C'est-à-dire que c'est le jeune interne qui l'a fait, qui avait peur de la mort, lui, parce qu'il était trop jeune médecin. Moi, j'ai vu mourir 4000 personnes. Alors, ça vous apprend à côtoyer la mort, ça vous apprend à écouter le patient. Parce que c'est pas la vie du médecin qui compte, c'est la vie du patient. Votre titre est intéressant, mais il veut dire quelque chose. La médecine face à l'euthanasie.
Mais oui, parce que j'ai invité 2 médecins.
Mais
moi,
oui.
Je suis le non-médecin. C'est
mais,
moi face à l'euthanasie,
mais c'est
en
là
plus
qu'il
des
y a
médecins.
Problème. Alors, je voudrais vous lire un très court
oui,
texte
allez-y.
D'un sociologue qui est Philippe Bataille. Un médecin ne tue pas. Cela arrive, mais ne se dit pas. Cela se sait, mais ne se répète pas. Cela se fait, mais ne se pense pas. Alors, il y a des problèmes. Et même beaucoup de problèmes.
Ben oui, mais en même temps, le mot de tuer, c'est ce que vous dites aussi à Anne Lorbock, c'est pas le rôle d'un médecin
oui.
De tuer. Vous opposez dans un article que vous avez publié dans Le Monde, Bernard Lebeau, 2 commandements, tu ne tueras point, aimez-vous les uns les autres, comme si dans cette affaire, c'était les 2 testaments qui entraient en conflit. En tant que porte-parole de l'ancien, je pourrais inclure dans le tu ne tueras point la sollicitude du médecin envers le mourant, qui peut aller jusqu'à l'euthanasie. Lévinas nous apprend que le « tu ne tueras point » naît de la rencontre du visage de l'autre, mais il dit aussi que le visage demande même qu'on ne le laisse pas mourir seul. Ça va au-delà de cette injonction « tu ne tueras point ». Et donc, dans la demande exprimée par le visage, il peut y avoir aussi « aide-moi à mourir mieux ». Donc, je verrai, moi, l'euthanasie comme une modalité ultime, extrême et paradoxale d'une « tu ne tueras point », je ne la verrai pas comme une transgression. Et là, je voudrais vous citer Anne Lorbock, tout autre chose. Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. Il y a le dernier chapitre qui est absolument splendide, le sourire de Karénine, la mort du chien Karénine. « Par rapport à l'homme, dit Kundera, le chien n'a guère de privilèges, mais il en a un qui est appréciable. Dans son cas, l'euthanasie n'est pas interdite par la loi. L'animal a droit à une mort miséricordieuse. » Que pensez-vous de cette phrase, une mort miséricordieuse ?
Il ne faut pas voir forcément, évidemment, le chien Karénine n'a pas besoin de se jeter sous le train pour en finir. Mais dans tout ce que vous avez cité, en fait, je vois des mauvaises pratiques. Oui, la médecine expose à des mauvaises pratiques. En fait, la médecine est difficile. Donc, il est évident qu'il y a besoin d'une codification, d'une formation. Et c'est ce que, en 10 ans presque de loi Leonetti, les choses ont énormément avancé. Bien sûr qu'il y a des mauvaises pratiques. Bien sûr qu'il y a des gens qui meurent mal avec une loi Leonetti. La loi Leonetti, c'est une loi. Donc, la loi ne peut pas tout faire. Il y a d'abord de la technique médicale, de la formation médicale. Bien sûr que manier les antalgiques, la sédation, tous les médicaments qu'on a, et c'est technique, c'est difficile. C'est à peu près aussi difficile que d'opérer le cerveau, à vrai dire. Donc il ne faut pas croire que parce qu'une partie de la médecine est difficile, il faut y renoncer, et parce qu'on n'est pas capable d'opérer proprement une tumeur cérébrale, on va laisser mourir la personne, on va se dire finalement, on pourrait par exemple faire une euthanasie d'une personne atteinte d'une tumeur cérébrale, parce que je peux vous dire que l'opérer proprement et bien, c'est difficile. Donc plutôt que de renforcer les bonnes pratiques, mais les non. bons moyens...
C'est parce que je
Oui, mais les exemples qu'a pris Bernard Lebeau, dont certains sont peut-être un peu anciens, signent éventuellement de très mauvaises pratiques. Par exemple, le fait de devoir mendier de la sédation et de la morphine en phase terminale, c'est simplement, c'est simplement une mauvaise pratique, c'est-à-dire une mauvaise éducation, une mauvaise connaissance. Parce que, notamment, la formation aux soins palliatifs est finalement assez récente, que tous les médecins n'y ont pas été formés, et il est très important de les renforcer. Or, si on permet l'autre solution, voire si on développe l'autre solution, ne nous faisons pas d'illusions, ça n'améliorera pas la formation et les connaissances médicales en termes de soins palliatifs. Ce sera, en fait, deux possibilités, dont l'une est très simple, très facile, très peu coûteuse. Donc, j'en ai peur, très tentante. Alors que l'autre moyen, qui est compliqué, il est vrai, coûteux, qui demande de l'énergie, qui demande de l'attention, qui dure un peu, qui n'est pas aussi immédiat, c'est vrai, risque d'être le parent pauvre d'une légalisation et dépénalisation.
Oui, mais autre chose, parce que vous dites souvent, vous écrivez que on n'a pas demandé au médecin d'être un euthanasieur. Je reprends le titre de votre livre, Bernard Lebeau, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, et qui en est fait préfacé par le professeur Alain Grimfeld. Et vous dites... C'est un moment, mais se suicider, c'est à la portée de tout le monde. Alors ça, moi, je trouve
Non, de toutes les personnes gravement malades.
Mais moi,
non, pas de tout le monde, mais j'ose espérer tout de même.
Il faut avoir les bons médicaments.
Non. J'ose espérer.
Il ne faut pas se rater. Mais... En Suisse, vous arrivez, parce que si on croit le cas de André Bernheim, on vous fait avaler d'abord un liquide qui vous empêche de vomir, ensuite une potion, vous met de la musique. Ben non, personne ne peut y arriver.
Que vous n'envisagez pas le suicide possible pour simplement les gens qui veulent se suicider en pleine santé. Donc, quand même, on peut imaginer que l'euthanasie ou le suicide assisté sont réservés aux grands malades.
Mais bien sûr.
Aux grands malades. Eh bien, s'ils sont grands malades, ils sont dépendants de la médecine. Ils ont des traitements. Ils ont des morphiniques dans l'immense majorité des cas. Donc, ce qui est effectivement très difficile pour un bien portant est beaucoup moins difficile pour un malade. Je n'ai pas dit extrêmement facile. Mais faut-il qu'une chose soit extrêmement facile dans notre vie et notamment en fin de vie ? Effectivement, ça n'est pas extrêmement facile, mais prendre la décision d'une euthanasie n'est sans doute pas non plus extrêmement facile. Donc la difficulté, là, est moins technique que psychologique, j'ose l'espérer.
Qu'auriez-vous fait si vous étiez au Conseil d'État dans le récent cas Vincent Lambert, cette fois-ci?
Résumez ce cas.
Ben, Vincent Lambert est quelqu'un en conscience minimale depuis maintenant 5 ans, je crois, 2008, et le tribunal est allé contre la décision médicale, et ça part deux fois, parce qu'on en a reparlé en début d'année, mais ça avait déjà été jugé une première fois, parce que ce pauvre garçon de 33 ans, victime d'un accident de voiture et décérébré, quoi. La mère et la femme n'étaient pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de directive anticipée, ça on peut le regretter, il y aurait eu des directives anticipées, la loi Leonetti s'appliquait directement. Là, n'ayant pas l'avis du patient, on passe à l'avis de la famille. Et quand la famille n'est pas d'accord, ben on en arrive à cette situation qui, pour moi, est, en la situation actuelle, une parfaite démonstration des insuffisances de la loi Leonetti. Que fera-t-on aussi pour les gens atteints de maladies de Charcot, sclérose latérale amyotrophique ?
Pour l'affaire Vincent Lambert, la loi Leonetti s'appliquait parfaitement et elle était bien appliquée. Mais ce qui se passait, et ce qui est habituel, c'est qu'il y avait une discordance entre la famille. C'est au passage assez fréquent chez les malades lourdement handicapés, parce que dans les familles, il peut y avoir une sorte de rivalité d'amour. Et qu'est-ce qui est le plus signe d'amour ? Est-ce que c'est accélérer une mort pour éviter la souffrance ? Ou au contraire, est-ce que c'est s'accrocher à la vie au-delà de tout ? La loi Leonetti s'appliquait très bien, mais la discordance de la famille n'était pas facile à régler. Donc ce n'était pas du tout un acharnement des médecins qui avait mis en œuvre la demande de la compagne. Il me semble que l'affaire du Conseil d'État, éventuellement la justice avait sa place, c'était non pas essayer de s'opposer au médecin, mais de diligenter une sorte d'enquête pour savoir de qui ce pauvre homme était le plus proche au moment où. C'était un adulte, il avait quitté ses parents, puisqu'on parle de la Bible, c'est quand même tu quitteras ton père et ta mère pour choisir une autre famille, c'est prescrit. Et donc, j'ai l'impression de l'extérieur que sa compagne était plus proche de ce qu'il souhaitait pour lui-même. Donc, ce qui me choque,
parce que les parents qui s'accrochent à sa vie n'allaient jamais le voir, n'allaient jamais le voir même à l'hôpital.
Ce qui me choque
donc
dans cette
affaire, c'est plutôt la vie comme valeur que la vie de leur fils.
Mais ce qui me choque dans cette affaire, c'est plutôt que on ait remis ce jeune homme dans les mains de ses parents, en quelque sorte, alors qu'il semblait les avoir volontairement quittés. Mais ça n'a rien à voir avec un défaut de la loi Leonetti qui était en cours d'application sans problème. Mais il est vrai que l'hésitation entre les familles, voilà, le déchirement des familles est quelque chose que l'on vit régulièrement et qu'une loi permettant le suicide assisté ou l'euthanasie ne fera en rien disparaître. Car dans tous les cas, là en l'occurrence le patient était inconscient, mais dans l'état de dégradation, voire dans les cas où les gens sont conscients, il y aura des hésitations, des déchirements dans les familles, et c'est bien normal. Et heureusement que ce n'est pas le consensus mou qui règne, c'est la réalité des rapports humains. C'est exactement ce que nous vivons très très souvent, ces déchirements entre les familles, en réanimation, puisque nous avons très souvent malheureusement affaire en réanimation neurochirurgicale à des patients qui sont inconscients, mais l'immense majorité des gens nous reprochent plutôt d'être euthanasieurs, même si nous ne le sommes pas. C'est-à-dire que la plupart des gens sont plutôt, pour nous, nous avons l'impression d'être pris en tenaille entre les euthanasieurs et les pro-life, comme vous le disiez. Les euthanasieurs qui ont peur de notre acharnement thérapeutique, en fait, les autres qui ont peur qu'on n'en fasse jamais assez. Nous sommes victimes de l'illusion de toute-puissance que nous avons bêtement contribué à faire naître dans les gens. Or, cette toute-puissance, en fin de vie, elle se heurte au fait que non, nous ne sommes pas toute-puissants. Et donc, les personnes qui sont confrontées à cette déception vis-à-vis de la médecine, régulièrement, soit ont peur de notre toute-puissance, parce que la toute-puissance, c'est la manipulation, soit sont déçues de voir que finalement, nous ne sommes pas toute-puissants et nous les laissons mourir. Et c'est vrai que les débats médiatiques ont beaucoup aggravé cette tenaille entre le médecin euthanasieur, le médecin tout-puissant. Il en fait toujours trop ou pas assez.
Je mettrais quand même une nuance. Dans cette triste histoire, il ne s'agit pas d'un grand malade. Il s'agit seulement d'un handicapé qui va vivre des années. 1200 personnes en France actuellement sont dans cette situation. D'où le problème du Conseil d'État qui avait la loi sous la main, mais qui a considéré qu'il ne savait pas, et là je pense qu'il n'est pas meilleur que vous ou moi, qu'il ne savait pas comment décider pour ce patient, ce qui prouve bien les insuffisances de la loi. Devant un handicapé aussi lourd, et il y en a 1200 en France actuellement, s'il prenait la décision de le tuer, il faut être clair, si on le débranche, si on arrête de le nourrir et de l'hydrater, il va...
Est-ce qu'il souffre si on arrête de le nourrir et d'hydrater ?
Moi, je crois que oui. Ah oui, voilà. Vous dites non et moi,
parce
je dis
que ça
je
a été très
oui.
bien étudié, notamment chez les personnes âgées qui arrêtent de manger régulièrement et qui se laissent mourir ainsi, qui s'éteignent en fait. Mais il faut arrêter complètement l'alimentation. Si on arrête complètement, notamment l'apport glucidique, chez les personnes âgées qui ont arrêté, il n'y a pas de sensation de faim. Et ça donne en fait une personne qui décline assez rapidement d'ailleurs.
Et la souffrance morale ?
Oui, mais la souffrance morale, c'est effectivement important et c'est la souffrance morale notamment des familles parce que un
et
grand
patient, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, pleurait en permanence.
Oui, donc il valait mieux, vous pensez que dans son cas, il valait mieux une euthanasie active
que quelqu'un qui est dans le désert,
mourir dans cette situation.
Quelqu'un qui est dans le désert, il n'a plus de quoi se nourrir, il n'a plus de quoi boire au bout d'un certain temps s'il n'est pas équipé. Vous pensez qu'il ne va pas souffrir ?
En tout cas, les travaux sur ce sujet...
Mais c'est des personnes très âgées qui sont en syndrome, ce qu'on appelle des syndromes de glissement. Là, oui, tout à fait, parce que la conscience s'en va, la vie ne tient plus qu'à un fil.
Oui.
Mais là, nous ne sommes pas dans la même situation.
Mais je crois qu'on est en train de mélanger plusieurs situations. Il y a les situations de personnes conscientes. C'est celles auxquelles s'appliquent les lois belges et hollandaises. Et les situations de personnes dégradées sur le plan intellectuel. Et la troisième situation, des personnes inconscientes. Les trois situations sont très différentes.
Mais les trois situations sont différentes, mais il y a des recoupements, du moins des résonances. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a des gens qui vous disent, et vraiment que vous l'entendez très fort au moment... Ils atteignent, sinon la grande vieillesse, du moins la vieillesse. Je ne veux pas, tu ne me laisseras jamais être dans une situation dégradée. Une fois qu'elles sont dans cette situation dégradée, c'est le conatus, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre que la vie. Et donc, on se rend compte qu'on n'a pas tenu la promesse qu'on leur a faite, et là, en effet, il ne peut plus y être question de la tenir, puisqu'elles s'accrochent, ces personnes, au peu de vie qu'elles ont. Et autre cas, Et je crois que je l'ai déjà cité dans une émission précédente avec Corinne Pelluchon, la philosophe, et Didier Sicard, médecin Didier Sicard. C'était ce que racontait Charles Ronsac, grand journaliste, éditeur chez Lafon, qui est lui-même mort très vieux, qui a été éditeur jusqu'à 90 ou 92 ans. Mais sa femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et il a raconté cette histoire dans laquelle il montre l'amour qui les unissait, puisqu'elle est restée chez lui tout au long de sa maladie. Il a supporté la dégradation, il n'a pas voulu l'envoyer dans une institution. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il était obligé de la surveiller tout le temps, parce que dès qu'elle voyait une fenêtre, elle montait pour se jeter par la fenêtre, et il la grippait pour qu'elle reste vivante. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est un peu comme cette femme qui pleure. Il lui restait, même dans l'état où elle était, c'était pas un état végétatif, il lui restait quand même la volonté d'en finir. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça la dignité, je ne sais pas, mais enfin, il y a un moment où une vie sans monde n'est plus une vie, et on peut le ressentir.
Mais attention, danger, il faut contrôler, il faut contrôler. Si on légalise, il faut contrôler. Parce qu'il y a des excès. Il y a des gens qui se suicident, ou il y a des gens qui demandent une euthanasie, simplement par phobie de la mort, par crainte de la mort. Si on les rassure, si on traite leur dépression, leur phobie, ils aimeront vivre de nouveau. Donc, actuellement, nous sommes dans une situation intermédiaire où la loi Leonetti a permis d'énormes progrès. Je vous rejoins totalement, notamment la possibilité d'en parler, enfin. C'est-à-dire, avant, ça ne se disait pas, maintenant, on en parle. Et l'on va progresser ensemble. Mais il faut progresser.
Ah oui, et vous vous dites qu'il faut s'arrêter plutôt.
Oui, je pense qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à un moment. Et je pense que c'est bien que la médecine soit capable de s'arrêter à un moment. Il y a, de façon symbolique, le symbole est important. La possibilité de l'euthanasie bouleverse gravement la relation soignante, gravement. Vous connaissez sans doute l'état de l'opinion. Actuellement, à peu près 80% de gens sont pour la légalisation, 20% contre. Dans le corps médical, c'est quasiment
50-50.
L'inverse.
C'est 50-50.
C'est presque inversé. Pourquoi donc les soignants, qui sont quand même aux premières loges, puisqu'ils ont vu mourir beaucoup de gens et qui sont les plus habitués à la souffrance, sont-ils si différents de l'opinion publique? Il faut voir ce que c'est de faire des euthanasies. Il faut voir ce que c'est que l'injection légale, létale. Donc il y a réellement une rupture morale, et il y a quelque chose qui est grave vis-à-vis des soignants et qui éventuellement peut les conduire au burn-out, ce que connaissent bien certains services de réanimation qui enchaînent des actes qui ne sont pas des actes d'euthanasie actuellement, mais qui sont des limitations de traitement actif et qui déjà sont difficiles. Donc on met en fait en danger la relation soignante du côté des soignants, mais du côté des familles. Croyez-vous réellement que les gens soient si contents que ça, notamment en Belgique? J'aimerais parler de la Belgique parce qu'il se trouve que j'ai de la famille en Belgique, donc c'est une situation que je connais assez bien. Et on entend souvent, on parle de la comparaison belge comme étant forcément très défavorable vis-à-vis de la France. Et voyez-vous, il se trouve que ma grand-mère est décédée en Belgique, elle avait 97 ans. Elle a fait 97 ans, j'aurais dit. Elle a été en bonne santé, mais elle a fait une pneumonie. Elle est allée à l'hôpital. Et à 97 ans, avec une pneumonie, on décède régulièrement. Il n'y avait nul besoin d'un coup de pouce euthanasique pour cela. Eh bien, ma tante, sa fille, est persuadée qu'elle a été euthanasiée contre son gré. Pourquoi? Je vais vous raconter comment ça s'est passé, ou comment ma tante me raconte comment ça s'est passé. Donc, la malade était en agonie, la famille autour d'elle. Une infirmière rentre dans la pièce, elle fait sortir la famille, elle pose une perfusion, la famille rentre, et 2 heures après, la malade était décédée. Eh bien, ma tante est persuadée que sa mère a été euthanasiée, contre son gré, contre la volonté de la famille, parce que l'hôpital avait besoin de lit, prétendument, ça durait trop longtemps. Et elle ajoute... En tout cas, avec ces médecins belges, on ne sait jamais ce qui se passe. Si l'un d'entre nous est malade, on file en France. Au moins, on ne risque pas d'y être achevé discrètement. Je rajoute que ma tante est quelqu'un de très éduqué. Elle a fait des études supérieures. Ce n'est pas une intégriste archaïque. Est-ce qu'elle s'est bien appropriée cette fameuse loi belge? Vous voyez que pour moi, c'est quelque chose de très effrayant. Parce que cette perte de confiance qu'il y a dans les médecins est quelque chose que l'on va vivre s'il y a une dépénalisation, une légalisation. Et ça ne touchera pas que quelques personnes arriérées. Et en plus, ce n'est pas seulement grave pour nous, si vous voulez, ce n'est pas simplement un réflexe corporatiste, ce n'est pas seulement pour défendre la confiance aveugle de nos concitoyens en notre profession, mais sachez que quand vous êtes obligé de vous confier sans faire confiance, ou de faire confiance à qui vous confiez ou qui vous n'avez pas confiance, C'est épouvantable. Et c'est ce vers quoi on va. Et c'est déjà ce qui se passe en Belgique. Excusez-moi de le dire. Je me sens autorisée à le dire parce qu'une grande partie de ma famille y réside.
Mais alors, vous semblez opiner du chef Bernard Lebeau. Or, à la fin de votre ligne, vous imaginez une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont l'article premier dit ceci. Toute personne gravement malade du corps et saine d'esprit a le droit à la liberté de choix des modalités de sa fin de vie, mort naturelle avec soins palliatifs, suicide assisté ou acte euthanasique, avec des conditions de mise en application très précises. Donc, vous seriez plutôt pour un alignement de la France sur le modèle belge.
Mieux que la Belgique. Je pense qu'il faut faire mieux que la Belgique. On peut faire mieux que la Belgique. Mais à chacun sa liberté. C'est-à-dire, je regrette cette triste histoire de la grand-mère de ma collègue. C'est anormal qu'il n'y ait pas eu d'information. C'est anormal qu'il n'y ait pas de discussion. Et ça prouve peut-être les insuffisances du service où ça s'est déroulé.
Est-ce qu'à partir du moment où le médecin devient aussi un euthanasieur, les patients, les malades, ne sont pas nécessairement conduits à avoir peur ?
Certains auront peur. Et c'est pourquoi il pourrait y avoir une solution. J'en ai parlé d'ailleurs avec des soignants, des cadres notamment. L'idée de créer un nouveau métier, c'est-à-dire non pas le terme euthanasieur qui est
terrible, hein.
Qui est terrible, qui est provoquant, je cherche à faire réfléchir. Il faut avancer ensemble et pour avancer, il faut réfléchir.
Ce sera un métier distinct.
Heureusement, alors ce terme euthanasieur est bien sûr proposé à l'Assemblée par un député d'extrême gauche. Et c'est un député du centre qui trouve le bon mot, praticien de fin de vie. Ce praticien de fin de vie n'est pas un médecin, c'est un soignant, kinésithérapeute. Ça pourrait être un médecin volontaire. Le médecin, vous le disiez au début de nos propos, a prêté un serment d'Hippocrate qui est de ne pas tuer. Alors, bon, ensuite, on peut aller plus loin et dire que, le sociologue Philippe Bataille l'a très bien dit, le médecin est parfois obligé de tuer, mais il n'aime pas le dire. Parce que, pourquoi le titre « la médecine » est intéressant ? Il y a deux médecins ici, et j'admire beaucoup tout ce qu'a dit Mme Bock. Notre vocation, c'est avant tout de guérir. La médecine, c'est une science pour prévenir ou pour guérir, sûrement pas pour tuer. Et chaque décès peut être vécu comme un échec. Donc l'apprentissage des médecins, c'est d'abord de leur apprendre à ne plus avoir peur de la mort, à se battre jusqu'au bout pour maintenir la vie. Mais lorsque la vie n'en finit pas, d'avoir la possibilité, par respect de la volonté du patient et pas sans l'en prévenir, de l'aider à partir, tranquillement. Je ne veux pas dire dignement, il n'y a pas de dignité là-dedans.
Alors, d'ailleurs, Anne-Laure Bock, admettons donc qu'il y ait cette distinction qui se fait entre le médecin et le praticien de fin de vie, celui qui peut aider à mourir, parce que, encore une fois, ce n'est pas facile de faire ça tout seul. Alors, je prends un cas imaginaire, mais que je tire de la lecture de votre article. Vous dites qu'en neurochirurgie, votre drame quotidien est le glioblastome, tumeur cérébrale maligne constamment mortelle. À des traitements, il retarde la récidive, il ne l'empêche pas, et les patients descendent petit à petit les échelons de la dégradation neurologique. Asthénie, difficulté de concentration, ralentissement intellectuel, déficit moteur, s'étendant en stade d'huile, confusion mentale et enfin coma. Bon, il y a aussi en médecine, ça c'est pas en neurochirurgie, mais en médecine neurologique, la maladie de Charcot à laquelle vous avez fait référence. On connaît son destin. Bon, vous me diagnostiquez un glioblastome. Demain, je viens vous voir à la Salpêtrière. Et je vous dis, non. Je connais l'histoire, Je veux qu'elle s'arrête à son début. Qu'est-ce que vous me dites ?
C'est peu probable que vous me le disiez. Très, très peu probable, car personne ne me l'a jamais dit. Mais c'est une expérience de pensée, excusez-moi. Vous êtes en train de faire une expérience de pensée.
Mais les gens ne savent pas tout ça.
Sauf
s'ils regardent sur Internet.
Je vous assure, c'est une expérience de pensée. Statistiquement, vous essaierez de tenir encore un peu. Et grâce à la médecine, vous tiendrez encore un peu et vous vivrez des choses formidables pendant ce temps. La médecine n'est pas obligée au bout, car j'ai décrit une situation épouvantable à la fin. Mais avant la fin, il y a ce qui se passe avant la fin. Et ce qui se passe avant la fin, c'est encore de la vie. Et pour avoir connu et pour connaître chaque jour ce type de situation, sachez qu'il se passe encore des choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on a commencé à traiter un glioblastome qu'on est obligé d'aller dans l'acharnement thérapeutique, oscillation d'Herzinghe à la fin. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité des soins. Bien sûr qu'il faut rester à la proportionnalité des soins. Et j'irai vous opérer une première fois si votre tumeur est opérable. Puis, avec la chimiothérapie et la radiothérapie, vous aurez une phase qui sera une bonne phase. En revanche, je n'irai pas, par exemple, vous réopérer une deuxième et une troisième fois, ce qui, cette fois, serait de l'obstination déraisonnable. Il est vrai que cela, c'est assez délicat. Mais la vie n'est pas quelque chose d'aussi simple. Et vous verrez. Et la vie n'a pas cette simplicité. Je crois qu'il ne faut pas essayer de simplifier trop la vie.
D'accord, mais vous n'opérez pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? La deuxième fois, j'ai ma récidive, j'ai eu des petits moments assez heureux, je suis peut-être parti en voyage, je ne sais pas. Mais je me tape la récidive, vous n'opérez pas, il m'arrive quoi ?
Eh bien d'abord, vous aurez des antalgiques, des médicaments.
C'est atroce.
Des médicaments qui vont quand même améliorer votre état, et même avec un déficit. Les gens font des choses. C'est-à-dire qu'on a une vision tellement sombre, tellement stigmatisante, il faut bien dire, du handicap. Tout vient de là. Vous savez que les premiers, j'aimerais dire tout de même qu'actuellement, avec ce débat, les premières associations qui sont très, très effrayées, ce sont les associations d'handicapés. Vous avez certainement vu un peu partout ces campagnes de presse, ces campagnes d'affichage des associations qui défendent les trisomiques, les polyhandicapés, les malades atteints d'Alzheimer. Vous les avez vus. Mais pourquoi arrive-t-il maintenant ? Mais parce que ces gens sont terrifiés de ce qu'on est en train de leur dire. Ils savent, eux, que même quand on est trisomique, polyhandicapé, atteint d'Alzheimer, on veut quand même vivre. Statistiquement, le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, et ce n'est pas juste un conatus biologique assez misérable, c'est le fruit de l'expérience, l'immense majorité des cas. Je n'ai pas dit tous, mais l'immense majorité des personnes veulent vivre. Et si on ne leur donne même pas cette chance, parce que de l'autre côté, encore une fois, il y a une solution simple, peu coûteuse, très peu coûteuse. Ça a son importance, excusez-moi, aujourd'hui, on parle quand même des pressions du coût exorbitant de la médecine. Si on a cette solution simple, peu coûteuse, efficace, digne, il n'y aura pas photo, malheureusement.
Bon, écoutez, je vous laisse le dernier mot, mais j'aurais encore une multitude de questions à vous poser. Je suis très heureux de cette discussion. Je ne crois pas que le débat qui s'annonçait dans la société aura vraiment lieu. Il me semble que le gouvernement, disons, est peut-être un peu échaudé par sa dernière réforme sociétale. Je ne suis pas sûr qu'il se lancera dans celle-là, en dépit des promesses du candidat François Hollande. En tout cas, nous en aurons parlé. Merci beaucoup Bernard Lebeau, merci Anne-Laure Bock. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vie et l'œuvre d'Ernst Jünger ». Mes invités seront Julien Hervier et Gilbert Merliot. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Cédric Châtelut. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.